jusqu'à 9h. Good morning business.
Il est 7h18, effectivement, on va se faire du bien ce matin, puisqu'on va aller sur le luxe, comme vous dites, effectivement, Laure, avec Joël de Montgolfier, vice-président de Grande Consommation Distribution et Luxe chez Bain & Company. Bonjour Joël de Montgolfier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que comment font-ils? Comment font les géants français du luxe, les LVMH, L'Oréal, Hermès et Kering, pour afficher ces croissances trimestre après trimestre, non seulement incroyables, à deux chiffres, même 20% hein, quasiment pour les quatre, mais en plus, pour beaucoup, c'est les meilleurs trimestres depuis 10 ans, depuis 15 ans.
Alors, c'est peut-être ça qui est le phénomène le plus étonnant. Hein. Vous vous souvenez du coup de ciseau sur la croissance du luxe en 2020 avec le Covid. 2021, on rattrape la totalité du retard, on revient au niveau de 2019. Personne ne s'attendait à ce qu'on réplique cette performance en 2022. Donc là, on a vraiment une conjoncture assez exceptionnelle. Vous l'avez dit dans votre segment tout à l'heure, il y a quand même des effets de change assez significatifs qui comptent quasiment pour 10 points.
Effet de change, il faut le redire, parce qu'effectivement, beaucoup de produits sont fabriqués en France, vendus aux États-Unis, donc il y a l'effet dollar.
Exactement. Et puis vous avez l'effet inverse, dollar fort, et donc un flux touristique en provenance des États-Unis qui a beaucoup bénéficié, notamment à la zone Europe, dans les derniers mois.
Mais c'est ça qui est impressionnant, parce qu'on voit les résultats de Kering, ils disent en Europe de l'Ouest, plus 17%. Et en fait, ce sont les Américains qui viennent en Europe faire leurs emplettes, qui repartent avec des produits de luxe.
Voilà, c'est la reprise du tourisme qui est quand même un facteur fondamental dans la croissance du luxe. Hein. Ouais. Historiquement, on avait des Chinois. Là, évidemment, le marché est totalement fermé. On est très content de voir les Américains arriver parce que le marché américain, c'est le plus gros marché du monde. Et un point de croissance sur le marché américain ou sur la consommation des ménages américains, c'est très significatif pour le marché du luxe.
Alors, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est quand on voit leurs commentaires pour les trimestres à venir. Ils disent tous, j'ai vu le communiqué de L'Oréal, c'est le même communiqué que LVMH. On est aussi confiant pour les mois qui viennent et les trimestres qui viennent, alors qu'il y a beaucoup d'analystes à qui on a parlé qui nous disent, non mais ça va s'arrêter à un moment donné, en 2023 ils vont faire un peu moins bien. Eux n'ont pas l'air de penser qu'ils vont faire moins bien.
Alors, il y a un petit peu de réserve quand même dans certaines des annonces.
Il y a un peu de réserve. Mais
très honnêtement, c'est très difficile de lire le marché en ce moment. Donc vous avez quand même des facteurs d'incertitude énormes. Vous avez le marché américain pour lequel la réserve fédérale a fait quand même des déclarations assez négatives. Vous avez le marché européen où il y a quand même la guerre aux portes, une prévision de crise énergétique, de récession, on ne sait pas très bien comment va se passer l'hiver. Et pour l'instant, la Chine n'a toujours pas rouvert. Donc il y a quand même des gros facteurs d'incertitude. Maintenant, le luxe est parti sur sa lancée. Selon toute vraisemblance, l'année 2022 va terminer à peu près dans les mêmes chiffres qu'on voit. C'est un peu la journée de la marmotte, hein, les publications depuis le début de l'année, c'est 20% à chaque fois. Donc on croise les doigts, on espère que 2022 finisse comme ça. 2023, c'est généralement pas un indicateur précoce, la consommation de luxe, quand il y a une décélération, puisqu'on a quand même des consommateurs qui sont assez aisés, qui sont pas les premiers à être affectés par des effets d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, etc. Mais il y a quand même des raisons de se poser pas mal de questions sur les dynamiques qui vont venir.
Tant qu'on peut augmenter les prix, finalement, il n'y a pas de sujet. Tant qu'on peut passer tous ces coûts énergétiques, même les augmentations de salaire, et que les consommateurs suivent, finalement, qu'est-ce qui pourrait arrêter des résultats aussi stratosphériques?
Alors, vous avez un facteur qui est la capacité de production. Ouais. Parce que c'est quand même très difficile de suivre en production sur des produits qui sont qui bénéficient d'une excellence en termes de savoir-faire, etc. Donc, vous avez à un moment, vous allez atteindre un petit peu la pleine capacité. Et puis, après, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que des extensions de zones de guerre, des incertitudes géopolitiques, la zone Asie qui est très peu stable en ce moment, ça peut quand même donner un sérieux coup de frein.
Vous êtes aussi spécialiste de la grande consommation. Est-ce que vous voyez des évolutions de comportement des consommateurs? J'ai regardé les résultats de L'Oréal, on voit que la division grand public progresse beaucoup ce trimestre, peut-être au détriment du luxe. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le downsizing, enfin des consommateurs qui changent de produits ou pas?
Alors, sur le marché de la grande consommation, là, on est déjà sur des facteurs de décélération sélective sur certaines catégories.
C'est ça.
Donc, on voit qu'il y a effectivement des effets de transfert d'achat vers, par exemple, des marques propres qui sont moins chères, vers des produits à plus faible valeur ajoutée. L'Oréal a beaucoup de chance, mais il y a d'autres acteurs dans le domaine de la beauté qui ont vu tout d'un coup des décélérations significatives négatives parce que les catégories dans lesquelles ils opèrent sont considérées comme non essentielles par les consommateurs.
Ah oui.
Le dernier sondage qu'on a fait auprès des consommateurs européens récemment nous montrait que 75% des consommateurs déclaraient devoir baisser ou avoir déjà baissé leurs dépenses. Donc sur les catégories d'entrée de gamme, on est beaucoup plus exposé.
Donc là, la chance de L'Oréal, c'est d'être un peu plus au-dessus en niveau de gamme. Parce que vous dites, L'Oréal, elle a de la chance. Finalement, en grande consommation, ça se passe très bien. Et c'est le cas. Qu'est-ce qui explique ça?
Alors, vous avez le pouvoir des marques, qui est quand même... Enfin, bon, on ne va pas entrer dans une leçon de marketing, mais vous avez toujours les marques leaders, les marques les plus fortes qui ont un pouvoir d'attraction qui persiste dans les crises. Il y a toujours une petite prime au leadership. Et donc, c'est beaucoup plus facile, effectivement, sur des catégories comme ça de haut de gamme de la consommation générale ou de la consommation de masse, qui généralement décélère moins brutalement parce que c'est les consommateurs qui les achètent sont moins sensibles, encore une fois, à ces effets de pouvoir d'achat.
Est-ce que dans les autres grandes marques de luxe mondial, en dehors des françaises, il y a le même phénomène de résistance, ou est-ce qu'il y a une singularité, une capacité de résistance plus forte chez nos Kohl's?
Alors, les grands leaders du luxe sont français. Hein, ouais. Le marché est quand même en voie de consolidation.
Non, mais vous avez aussi, je pense à Shiseido au Japon, je pense aux groupes américains aussi.
Alors, tous les résultats n'ont pas été publiés. Vous avez aussi des effets de catégorie un peu différents. Donc, par exemple, Richemont, comment ça va sortir sur la joaillerie et l'horlogerie, c'est une bonne question. Les acteurs américains, en règle générale, ils sont un peu plus situés vers le milieu du marché du luxe.
D'accord.
Et là, sur le marché, et puis beaucoup plus soumis à une consommation domestique aux États-Unis. Donc, ça sera un bon indicateur de ce qui se passe aux États-Unis quand ils vont sortir leurs résultats.
Après, quand on voit les chiffres américains, des calls justement sur le marché américain, on a l'impression que la consommation américaine se tient bien quand même. Hein.
Pour l'instant, ça tient.
Malgré, effectivement, l'inflation, le pouvoir d'achat, on a l'impression que les consommateurs américains sont aussi de retour, pas seulement en Europe, mais aussi chez eux. Hein.
Alors, pour l'instant, ça tient. Après, est-ce que la chute des marchés financiers, les Américains ont beaucoup de portefeuilles boursiers, donc est-ce que ça va les affecter? Est-ce qu'ils vont commencer à réduire? Pour l'instant, ils ont un marché de plein emploi, donc ils ne sont pas trop affectés ni par le chômage, ni par la baisse du pouvoir d'achat. Grosse question sur 2023.
On se disait avec Laure, parce qu'on va y arriver, d'autres résultats. Renault, plus 20% de chiffre d'affaires. Forestia.
Forvia maintenant.
Combien? Comment ça s'appelle maintenant?
Forvia.
Forvia, plus 30%, c'est ça, hein?
Oui. On se dit quelle
crise. La crise, quelle crise? Elle est où la crise?
Vous avez quand même des indicateurs précoces.
Ouais.
Vous avez quand même pas mal de ralentissements d'activité. En tout cas, vous avez toute la période d'incertitude qui ouvre généralement les crises, qui est déjà ouverte. Vous voyez des ralentissements et des attentes de la part de pas mal d'acteurs, notamment sur le marché américain. Mmh. Et donc, quand on entre un peu dans cette zone d'incertitude, vous avez un effet d'entraînement qui fait que moins on bouge. Donc, on va voir s'il y a ce même effet boule de neige qui joue cette fois-ci.
Merci beaucoup, Joël de Montgolfier, vice-présidente de Grande Consommation, Distribution et Luxe chez Ben & Company, d'avoir décrypté pour nous ces très bons résultats pour l'instant au T3, on est d'accord.